Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Comme on tombe amoureux d'une personne, l'on peut aussi tomber amoureux d'un pays, d'une culture, d'une vision du monde. Une révélation que notre invité a ainsi formulée par ces mots. La seule chose dont j'avais conscience, c'était la certitude que mon histoire avec cet endroit, cette ville, ce pays, allait être bien plus vaste que ce que j'avais imaginé. Après une quinzaine d'heures dans ce monde flottant, c'était la seule chose que je savais. Fermez les guillemets. Et ce monde flottant, c'est le Japon, où vous vivez désormais. Bonjour Sébastien Rezer.
Bonjour, et merci de votre aimable invitation.
Vous êtes donc né en France, où vous avez exercé plusieurs activités, entre autres fondé une maison d'édition musicale. Vous étiez également traducteur et vous avez ici commencé votre carrière d'écrivain. Et puis vous êtes installé depuis 2014 à Kyoto, ouais, où vous poursuivez votre œuvre romanesque, totalement imprégnée du Japon. Et après une trilogie parue à la Série Noire, un récit intitulé « Éloge du Zen », d'où était extraite la citation du début, vous publiez un nouveau roman aux éditions Mercure de France sous le titre « Confession japonaise ». Avant d'entrer dans ce livre, voulez-vous nous raconter, Sébastien Rezer, comment est née cette attirance vers le Japon ?
Ça a été vraiment une révélation d'arriver au Japon. J'avais beaucoup voyagé en Asie du Sud-Est avant, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, pendant de longs séjours à plusieurs reprises. Et en finissant le premier tome de la trilogie, l'alignement des équinoxes, je ne sais pas pourquoi, ça m'a apparu comme une évidence qu'il fallait continuer le voyage et aller au Japon. Comme si c'était inconsciemment, depuis des années, le but d'une quinzaine d'années de voyage. Et en arrivant à Kyoto, après avoir passé quelques semaines en Corée, et au bout de 15 heures, ce monde flottant m'a complètement enveloppé, je me suis senti immergé. Monde flottant parce que c'est une perte totale de repères, mais c'est pas quelque chose d'inquiétant ou d'angoissant. Et ce que j'ai ressenti, c'était en visitant un temple, un petit temple qui s'appelle Enkoji, où d'ailleurs il y a la tombe de Tokugawa Ieyasu, le shogun qui a fondé l'ère d'Edo en 1603, la Pax Tokugawa, qui a duré jusqu'à la restauration Meiji. Et c'est là, dans ce temple, que j'ai ressenti... Il y a un terme bouddhiste qui est le Kensho. C'est ce qu'on pourrait appeler vite le petit Satori. C'est-à-dire, c'est voir la nature. Littéralement, ça veut dire voir la nature. Et ce que j'avais écrit dans l'alignement des équinoxes, cette fameuse loi de l'alignement, où pour être en pleine possession de sa vie, il faut, ou pour vivre pleinement, je ne sais pas comment l'exprimer, mais pour tendre vers l'absolu, il faut avoir conscience qu'on vit dans trois domaines simultanés, physique, psychique, spirituel. Et c'est ce que j'avais écrit sous forme de fiction dans le premier volume de la trilogie, l'alignement des équinoxes. Et ce Kensho, dans le sanctuaire d'Enkoji, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, c'est cet endroit. C'est à cet endroit que j'ai ressenti pleinement ça. J'étais chez moi. Et j'avais voyagé auparavant, j'ai fait le compte dans mon passeport, dans 25 pays. J'avais jamais ressenti ça nulle part.
Donc c'est une révélation physique, mais qui est déjà passée par une révélation littéraire, parce que vous étiez déjà un adepte de Mishima, par exemple. Mmh. Donc vous n'alliez pas là-bas sans aucune connaissance de cause, loin s'en faut.
J'étais imprégné du Japon par la littérature, oui, surtout par Mishima, Kawabata, Tanizaki, les grands maîtres, par des contemporains aussi comme Hitonari Tsuji ou Keiichiro Hirano. Mais je ne parlais pas un mot de japonais, par exemple. Et surtout, il y a la notion d'expérience. J'insiste beaucoup sur la notion d'expérience dans le petit éloge du zen. Ça commence par un adage zen qui dit « Pour savoir ce qu'est le chaud et le froid, il faut en faire soi-même l'expérience. » Et la notion d'expérience est fondamentale. Donc avant d'arriver au Japon, je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Et je me suis rendu compte que c'était pas un autre pays, contrairement à ce qu'on dit, mais une autre planète.
Alors cette planète, elle est devenue vôtre, à l'image de ce nouveau roman qui met en scène un jeune garçon, Tetsuo Fujiwara, né en 1990 à Kobe, et dont l'existence est totalement fracturé après le tremblement de terre de 1995 qui ravage la ville, faisant 6437 morts, dont ses parents et sa petite sœur encore bébé. Et dès lors, l'enfant de 5 ans sera recueilli par sa grand-mère, mais totalement détaché de la notion de bonheur. Nous y reviendrons. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce tremblement de terre de Kobe?
En fait, le tremblement de terre de Kobe, je ne sais pas vraiment comment c'est venu. Il y a beaucoup de choses intuitives, en fait, dans la rédaction de ce livre. Le personnage principal ne pouvait pas être un salaryman complètement inséré dans la société, parce que je connais pas tous les codes du milieu du travail japonais. Il y a trop de choses qui m'échappent. Je ne pouvais parler que de ce que je connais. Donc forcément, ça devait être un misfit. Ça devait être quelqu'un qui est un peu décollé du réel, qui a une existence singulière, quelqu'un qui n'est pas complètement inséré dans la société.
Je reste sur ce tremblement de terre, parce que c'est vrai que c'est l'un des grands thèmes quand même de la culture japonaise, cette imminence et cette fréquence aussi des catastrophes naturelles, que ce soit tremblement de terre ou tsunami d'ailleurs, qui régulièrement endeuille le Japon. Et il semblerait que ce soit un sujet à ce point inhérent au quotidien qu'on ne puisse pas l'éluder aussi dans la littérature.
Il y a 4 ou 5 plaques tectoniques qui forment le Japon, donc depuis toujours. C'est une civilisation qui s'est bâtie sur la probabilité d'une catastrophe imminente, quoi. Et ça a vraiment forgé la mentalité japonaise, l'inconscient collectif. Et leur réaction est fataliste, je sais pas si c'est le mot approprié, mais ça arrive. Une maison est détruite, on la reconstruit. Si on est encore vivant. Et le rapport à la mort n'est pas du tout le même. Les typhons de la fin d'été, les tremblements de terre, les inondations, les glissements de terrain, ça crée aussi un rapport à la mort complètement différent.
De même qu'il y a cette dualité de la violence de cette nature qui fait tout aussi écho à la magnificence de cette nature. Parce que là-bas, il y a un esthétisme extrêmement cultivé, cet art floral, oui. Cette beauté de la végétation qui est sans doute une des beautés les plus puissantes du monde. Et ça aussi, ça circule dans votre littérature désormais.
Forcément, on s'imprègne de l'endroit où on vit. Donc le Japon imprègne peu à peu mon écriture, c'est mécanique quasiment, quoi. Mais c'est vrai que le Japon est, je pense que c'est la civilisation la plus, ou la culture la plus contrastée et la plus remplie de paradoxes qu'il m'ait été donné d'approcher et de connaître. Il y a un côté lugubre, il y a des histoires de fantômes la nuit au bord des rivières, il y a ce qu'on appelle le pèlerinage de l'heure du bœuf, où on va clouer des cheveux de quelqu'un dans un temple bien précis à telle heure pour qu'il meure. Enfin, il y a des choses lugubres, il y a la violence de la nature, et paradoxalement, il y a une recherche esthétique d'un raffinement extrême dans tous les domaines et dans tous les actes du quotidien, dans les jardins des temples ou des sanctuaires. Et même dans la ville de Kyoto elle-même, les gens habitent Kyoto, mais ils n'habitent pas leur appartement, ils habitent la ville tout entière et prennent soin de toute la ville, de la Kamogawa, de la Takanogawa, des rivières qui la traversent. Ils font vraiment corps avec la ville, avec la nature. Le côté esthétique raffiné de l'ikebana, mais même, vous allez simplement acheter des cartes postales, vous n'osez plus les déballer tellement l'emballage est magnifique. Ce soin méticuleux porté, ce qu'on appelle donc en gros le monde visible, je pense que ils apportent un soin d'autant plus précis à toutes ces choses du quotidien qu'au fond, je pense qu'ils n'y croient pas vraiment au réel. Ça reste quelque chose de flottant, qui peut s'évaporer d'un instant à l'autre, quoi. Ça, c'est des intuitions que j'ai ressenties avant de commencer à comprendre un peu le japonais. Quand je ne parlais pas la langue, quand je comprenais rien de ce qu'on me disait, que j'étais incapable de m'exprimer, que je ne savais rien lire. Ce genre d'intuition m'est venu, d'instinct. Et donc, il y a toujours deux aspects, quoi.
Et cette dualité, elle existe aussi donc dans votre personnage que j'appelle Tetsuo, moi, si vous permettez.
Tetsuo, ouais.
Parce qu'à la fois, c'est un miraculé, mais pour lui, cette survie, finalement, n'est qu'une source d'angoisse et de souffrance, jusqu'à ce que sa grand-mère lui dise, il a environ 10 ans, qu'il y a donc le monde visible qui est un monde flottant, et puis le monde invisible, là où vivent les esprits des morts. Et cette phrase semble déclencher un petit espoir en lui, à savoir la possibilité de communiquer avec l'au-delà et ses parents en premier lieu. Que pensez-vous de cette idée de pouvoir créer une passerelle entre les deux mondes, Sébastien Rezer?
Mais justement, il n'y a pas de passerelle. Les deux mondes cohabitent en permanence. Mais en même temps, il y a tous ces tories vermillon qui sont censés séparer le monde profane et le monde sacré, le monde des vivants et le monde des morts. Donc là aussi, c'est un paradoxe. S'il n'y a pas de séparation entre les deux, pourquoi il y a des tories? Et pourquoi au mois d'août, il y a la fête d'Aubonne, qui est la fête des morts? Et le 16 août au soir, les cinq grandes collines du nord qui entourent le nord de Kyoto sont illuminées. Il y a des immenses kanji en pierre qui font des centaines de mètres. Et cette fête s'appelle Okuribi, c'est littéralement le retour par le feu. Donc c'est ce moment où l'esprit des morts est emmené par les flammes, par le feu, dans le royaume de Yomi, donc dans le monde des morts. Et malgré tout, ils sont toujours présents. Et en même temps, on les renvoie chez eux. C'est assez étrange. Ouais.
Mais est-ce que c'est pas la littérature qui devient la passerelle?
Je ne sais pas. Dans ce cas précis ou en général?
Les deux, mon capitaine.
Non, c'est vrai que Tetsuo flotte entre les deux mondes. Il ne connaît pas bien sa place.
Oui, c'est aussi pour ça que je parlais de la littérature entre les deux mondes, puisque c'est une confession au sens propre du mot, comme on va le découvrir tout à la fin du récit, puisque c'est bien parce qu'on lui donne du papier et un crayon qu'il écrit sur ces deux mondes. Et à la fois son appartenance et son exclusion des deux mondes.
Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Il se sent exclu des deux mondes. C'est parfaitement ça.
Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce personnage et dans son traumatisme?
En fait, le personnage est venu après. Au début, vous m'avez posé la question, je crois, comment est né ce livre?
Non, je ne l'ai pas encore posé cette question.
Excusez-moi, j'ai anticipé.
je suis même pas sûre d'avoir eu envie de la poser. Je vous laisse répondre.
Mais c'est pas ça a plus commencé avec Tsuchiya, cette espèce de femme fantôme qui existe ou pas, qui est un yokai, une espèce d'esprit qui prend forme humaine. Ni moi ni Fujiwara ne le savions vraiment au départ. Il y a eu un déclic, il y a une scène qui m'est vraiment arrivée, qui est dans le livre, qui a duré une seconde. Le livre est né en une seconde, en fait. Et ensuite, j'ai passé un an et demi ou deux, peut-être, à amalgamer. C'était comme un attracteur étrange qui a amalgamé des sensations, des textures, des couleurs. Pas d'histoire à proprement parler. Quand j'ai commencé à écrire, je connaissais pas vraiment l'histoire, mais je connaissais l'univers par cœur, la sensibilité, la profondeur des personnages. Et j'avais la volonté de creuser aussi profondément Fujiwara Tetsuo, que je ne connaissais pas en écrivant la première ligne. Et que j'ai creusé, que j'ai découvert en rédigeant cette fiction.
Et avant que vous n'oubliez, quelle est cette scène et quel est ce déclic?
La seconde où est né le livre, c'est la scène où il rentre dans un combini et il voit une femme gainée de noir, sublime, avec des éclisses en acier qui gainent ses jambes. Et ça m'est arrivé. Sauf que c'était moi qui avais l'air encore plus bizarre qu'elle, parce que je sortais d'une séance de Yaido, qui est le sabre japonais. Donc j'étais avec mon hakama, j'avais mon sabre dans le dos, je rentre dans le konbini à 9h30 du soir après l'entraînement, je crevais de faim. Je voulais m'acheter des boulettes de riz, des onigiri. Et dans le seul rayon vide pour me précipiter vers ces boulettes de riz, en face de moi arrive cette femme qui dégageait une puissance sensuelle et sexuelle totalement atomique. Mais j'avais l'air encore plus bizarre qu'elle avec mon accoutrement de Yaido et mon sabre. Et là, je me suis dit, là, il y a le premier fil de cet univers qui avait commencé à s'amalgamer depuis un an et demi. Et je me suis demandé, mais comment réagirait un Japonais dans cette situation? Qu'est-ce qu'un Japonais ferait? Sans plus que ça. Mais je savais que ça ferait partie du livre. Je ne savais pas où, quand, je connaissais pas l'articulation de l'histoire. Mais je savais que c'était là. Bon, on va pas spoiler, mais cette rencontre avec cette femme fantôme, il sait pas trop comment l'aborder, comment la percevoir, ni ce qu'elle lui veut, parce que c'est elle qui le cherche, en fait. Va effectivement transformer tout son imaginaire. Tout l'imaginaire qui s'est bâti, quoi. Ouais. Thank you.
êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de l'écrivain français Sébastien Rezer, dont le nouveau roman vient de paraître aux éditions Mercure de France sous le titre « Confession japonaise ». Le récit donc à la première personne d'un jeune homme de 23 ans, Tetsu, orphelin, seul, comme nous l'avons évoqué en première partie, et que nous suivons dans un premier temps dans un récit de formation où il avance dans la vie avec apparemment les codes d'un adulte inséré dans une société où il mène une existence réglée par un emploi, dans un hôpital, un logement. Et puis au fur et à mesure de sa confession, des indices laissent entendre au lecteur que Tetsu glisse vers la folie. Et en effet, une folie certainement cristallisée par la rencontre avec cette femme dont on ne sait si elle est réelle ou si c'est un démon. Est-ce que c'est aussi un roman qui interroge la schizophrénie ?
Je suis pas allé jusque-là. C'est assez intuitif, ma façon d'écrire. Je fais pas de plan ni de thème très fouillé. C'est vraiment à l'instinct que l'univers s'amalgame. Et une fois que tout est amalgamé, cet univers m'engouffre complètement et certaines parties se révèlent totalement déplacées, hors de propos, inutiles, et d'autres insoupçonnées arrivent. Mais je ne réfléchis pas avec des mots aussi forts que schizophrénie ou folie. Je me suis vraiment concentré pour creuser vraiment les réactions de Tetsuo, sa façon de penser, l'évolution de son rapport aux gens, aux choses, sa conception. Le mot confession dans le titre, c'est pas vraiment un hasard. En fait, il s'appelait pas comme ça au début, et il était même pas signé Rezer au début. Le manuscrit était signé Fujiwara Tetsuo, et le titre était Kowareta Hana, fleur brisée. Mais finalement, on a dû trouver un autre titre, et le mot confession fait écho à Confession d'un masque de Mishima. Parce que c'est avec la même profondeur que je voulais creuser le personnage, comme Mishima le fait dans son roman.
Épuisé aussi en vous la part d'étrangeté que lui peut ressentir, étranger à son propre monde.
Oui, oui, bien sûr. Je me sentais sans doute, sûrement même, durant les premiers mois où j'ai vécu au Japon, sans rien comprendre du tout. Je me sentais complètement étranger et en même temps parfaitement à ma place. Ce qui est assez paradoxal aussi.
Mais cette étrangeté, ce décalage, vu d'ici, vu d'Occident, on a l'impression que c'est néanmoins un sentiment partagé par un certain nombre de Japonais. Je m'explique. Les thèmes de solitude, de suicide et de pulsions sexuelles, qui sont néanmoins partagés par le plus grand nombre sur les 5 continents, semblent assez récurrents au Japon. Par exemple, je m'arrête juste sur le suicide. Est-ce que vous diriez, vous, en effet, Sébastien Rezer, que cette solitude, cet enfermement, cette façon de se donner la mort, comme Mishima a pu le faire d'ailleurs, c'est propre au Japon?
Le rapport à la mort au Japon est très très particulier, ouais. Ce n'est pas grave. Il existe 14 formes de suicide, même le suicide est très... très codifié, il y a 14 formes, même de seppuku, rien qu'en parlant du seppuku, il y en a 14 formes, ouais.
C'est une fascination pour vous ?
Fascination, je sais pas, mais c'est un rapport à la mort qui incite à la vie, en fait, à profiter de l'instant présent, comme le zazen peut le faire. Le zazen, c'est ici et maintenant. Ça incite à la contemplation hanabi, hanami, c'est les feux d'artifice, hanami, c'est la contemplation des cerisiers au printemps. Donc ce rapport à la mort qui peut être imminente, qui n'est pas forcément grave, et le suicide n'est pas forcément grave non plus, mais ce rapport à la mort incite vraiment à une intensité de vie du moment présent qui est la plus totale possible.
Et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, selon vous?
Pour ma part, je n'ai trouvé nulle part ailleurs, oui.
Et à un moment, arrive donc ce point de rupture. Il y a un grand vertige qui s'empare de Tetsu, qui ne sait pas, par exemple, s'il a tué ou pas une femme.
Oui.
Cette fameuse magnifique personne que vous décriviez au début du roman et qui a donc été le déclic. Il se souvient bien d'avoir été séduit, il se souvient bien d'être allé dans une chambre d'hôtel, d'avoir commencé une relation sexuelle, mais ensuite, un grand vide, et cette femme est néanmoins morte. Et il ne sait plus, donc, s'il est toujours dans le monde flottant ou s'il s'est évaporé.
Oui.
Il ne sait plus s'il est sous l'emprise d'un démon, cette femme, donc.
Oui.
ou pas.
L'autre femme.
L'autre Tsuchiya, femme, bien sûr.
La femme fantôme, Tsuchiya. Oui.
Et là, Sébastien Rezer, vous prenez le risque de déstabiliser la compréhension de vos lecteurs, de nous perdre un peu dans un labyrinthe. Et je me demandais si précisément c'était pas à dessein pour qu'on lâche prise, pour qu'on perde nos repères.
Oui, 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 oui. Je voulais que le lecteur soit embarqué dans le monde de Tetsuo. Ah oui, complètement. Ouais, ouais. Faut que le lecteur parte dans cette aventure avec lui.
Sachant que ce n'est pas une lecture occidentale traditionnelle.
Non. C'est marrant ce que vous me dites là parce que un des premiers lecteurs, c'est un ami à moi qui s'appelle Fujimoto Sensei. Et qui est francophone, francophile. Et qui a lu une des premières versions du manuscrit, qui a pas beaucoup changé en fait, mais on s'est vu, on parle français, et il me dit, mais c'est incroyable. Parce que j'avais signé, donc le manuscrit était signé Fujiwara Tetsuo.
Donc vous vouliez vous faire passer pour un écrivain japonais?
Non. C'est compliqué. C'est pas un jeu intellectuel sur prendre un pseudo ou quoi que ce soit. C'est pas le Rezer qui a écrit l'alignement des équinoxes, qui a écrit Confession japonaise, c'est le Rezer qui est en train de devenir japonais, qui s'imprègne de Japon. Donc je me suis dit, ça a un sens de signer Fujiwara Tetsuo. Mais en même temps, Fujiwara, un japonais qui écrit directement en français, c'est bizarre. Enfin, ça posait des problèmes, etc. Donc mes éditrices, Colette Fellous et Isabelle Gallimard m'ont dit, non, écoute, on va faire ça, puis t'appelles Rezer, tu signes Rezer. C'est tout. Donc on a aussi changé le titre pour Confession japonaise. Ce fameux ami Fujimoto Sensei m'a dit, mais c'est incroyable, c'est pas un français qui a écrit ce livre, c'est pas Sébastien Rezer, c'est pas vous qui avez écrit ce livre, mais ça peut pas être Fujiwara Tetsuo non plus vu qu'il n'existe pas, donc c'est l'étranger parfait. Et il m'a développé toute une théorie sur l'étranger parfait qui est l'auteur de ce livre.
Entre deux mondes littéraires donc. Et c'est vrai que on sait à quel point le langage modèle le cerveau,
oui.
Façonne
oui.
Le cerveau.
Oui.
Donc là, Sébastien Rezer, vous écrivez en français, mais néanmoins, vous êtes totalement immergé de culture japonaise. Vous avez appris le japonais, donc vous le parlez, vous l'écrivez. Qu'est-ce que ça a changé chez vous? Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de mesurer la différence de votre vision du monde, par exemple?
Forcément, ça évolue, oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, on s'imprègne de l'endroit où on vit, où on pense, où on respire. Peut-être que Fujimoto Sensei a raison en disant que je suis l'étranger parfait, quoi, parce que je comprends pas encore tous les codes japonais et la pensée japonaise. J'apprends toujours, je suis toujours en train d'en apprendre chaque jour. Au niveau de l'écriture, il y a un sens de l'ellipse qui est beaucoup plus profond. Et il y a le déroulement temporel du récit est complètement différent de la littérature française. Mais ça, je l'ai fait instinctivement, je l'ai fait intuitivement. À force de lire et à force de côtoyer énormément de japonais, je vois assez peu de français, en fait, à Kyoto. Donc, c'est pas un fait exprès, c'est une imprégnation naturelle qui se retrouve par des calques dans le texte et dans la façon d'écrire, la façon d'aborder des questions, des sujets, ou d'aborder en général le terme de confession, qui veut dire plusieurs choses. Le terme japonais veut dire plusieurs choses, ça veut aussi dire un aveu, ça peut être le partage d'un secret aussi, ou d'un amour. Le terme confession est beaucoup plus vaste en japonais qu'il ne l'est en français. C'était effectivement mon intention d'écrire sur l'histoire d'un japonais, me mettre dans la peau d'un japonais, devenir Fujiwara Tetsuo. Bon, il y a eu l'influence des lectures, de 25 ans de lecture de romanciers japonais, mais c'est surtout l'expérience de vivre au Japon qui a façonné, qui m'a quasiment tenu la plume, quoi. Parce qu'encore une fois, je ne connaissais pas l'histoire, je n'avais pas écrit le tempo de l'histoire, je ne connaissais pas les temps de flottement, les temps d'accélération, de rapidité, de violence. C'est vraiment intuitif, quoi. C'est par intuition que ça s'est fait.
Donc, vous êtes bien en train de devenir un écrivain japonais, Sébastien Rezer. Et du coup, quel est votre lien avec la langue française aujourd'hui? Est-ce que vous la regardez d'un autre œil? Est-ce que vous, là, vous venez de nous dire que vous l'écriviez déjà différemment? Mais ouais. Quel est le lien que vous avez aujourd'hui avec la langue française?
Uniquement en lisant et en écrivant.
Mais vous la voyez différemment aussi?
Alors, ça s'est passé plutôt quand j'ai écrit le premier volume de la trilogie, L'alignement des équinoxes, j'ai écrit en France. Et les deuxièmes et le troisième volumes, j'ai écrit au Japon. Et le deuxième, Sagittarius, en écrivant Sagittarius, j'ai senti effectivement que je ne parlais plus français dans ma vie quotidienne. Que c'était uniquement en lisant des livres ou en écrivant des livres que j'utilisais le français. Et j'ai ressenti un rapport très fort avec les mots, physique, comme si le fait qu'ils avaient largement disparu de ma vie, se sont éloignés de moi, de 11 000 kilomètres. Ils avaient pris une texture physique, quoi. Je les ressentais physiquement. C'était vraiment, vraiment incroyable. Après, je m'y suis accoutumé, mais ça m'a beaucoup marqué pendant l'écriture de Sagittarius, ouais.
Mais on le sent ici aussi, puisque vous avez parlé du tempo, vous avez parlé de la narration, mais ici, dans le style, c'est extrêmement ciselé. Vous faites appel à un vocabulaire qui n'est pas un vocabulaire courant. Bien entendu, c'est une œuvre littéraire. Mais c'est comme si d'un seul coup, vous aviez redécouvert ou découvert l'ampleur de la langue française, presque un nouveau dictionnaire.
Je me suis plutôt penché sur la précision des sentiments ou des émotions ou des événements. C'est plus une question de précision japonaise, qu'on peut donc transmettre par la langue française. Si telle est votre impression, oui, ouais, c'est ça, ouais.
Il y a une exigence d'une langue qui a trouvé son écho dans une autre langue.
Oui, et il y a surtout la sensation, je pense qu'il y a des passages quand même assez de description de la nature, de temples, de jardins, où Tetsuo se laisse porter, donc ça donne peut-être lieu à des moments poétiques, mais que la langue française permet avec autant de nuances que la langue japonaise. Et Dieu sait qu'il y a des nuances dans la langue japonaise, avec 15 mots pour décrire la neige, selon la période de l'année où elle tombe, si elle a commencé à fondre avant de geler à nouveau, le moment de la journée, la façon dont le soleil se reflète dessus. Mais donc, il est possible, peut-être, de rendre les mêmes impressions en français. Oui, parce que la langue française est quand même très riche aussi, quoi.
Et de fait, est-ce que c'est un de vos vœux, Sébastien Rézère, d'être traduit en japonais ?
Ah bah ce serait une excellente surprise, oui, oui. Je serais très curieux de voir comment un japonais pourrait réagir à la façon dont un français expatrié dans son pays, comment il le perçoit. Alors j'ai quelques retours par des japonais francophones, mais les japonais non francophones, oui, je serais curieux aussi, oui.
Merci beaucoup Sébastien Rézère.
Merci à vous. Arigato gozaimasu.
Je rappelle le titre de ce nouveau livre, Confession japonaise, publié au Mercure de France.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.